Seigneur Jésus, merci pour ta sainte présence. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité, afin que nous puissions marcher sur le chemin de la vérité et glorifier ton saint nom. Car c'est par ta parole que tu nous montres le chemin que nous devons suivre. Merci Seigneur. Trouve en nous encore des cœurs obéissants, afin que ton œuvre continue de se faire, instant après instant, jour après jour, jusqu'à ton glorieux retour. Merci Seigneur pour l'assistance du Saint-Esprit, pour nous aider à méditer ta parole, à la comprendre et à la mettre en pratique. Merci Seigneur. Inspire selon les besoins de chacun, afin que chacun soit édifié, fortifié, encouragé et renouvelé. Merci Seigneur Jésus, et à ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Nous arrivons à la dernière réunion de cette convention et nous pouvons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait d'une manière visible et tout ce qu'il a fait d'une manière invisible aussi, n'est-ce pas vrai? Tout ce que Dieu fait n'est pas toujours visible, mais c'est autant réel, autant profond, et bien souvent c'est peut-être même encore plus profond, n'est-ce pas vrai? Ainsi, que le nom du Seigneur soit béni, mais il a encore toujours à nous parler, c'est le bon berger, nous sommes ses brebis. Il a toujours quelque chose à nous dire, et cela jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où il viendra nous chercher pour être pour toujours avec lui. Amen. Les quelques paroles que je voudrais donner pour terminer cette convention sont des paroles que nous allons trouver dans l'évangile de Jean. Vous l'avez remarqué peut-être, à plusieurs reprises, il y a des paroles très précises, des mots très précis, qu'on peut appeler des impératifs divins. Il y a des impératifs divins dans la parole de Dieu. Et nous allons en voir sept dans l'évangile de Jean, qui sont comme les sept impératifs divins pour tout disciple du Seigneur. Sept impératifs. Et quand c'est un impératif, c'est une parole sérieuse, c'est une parole qu'on ne peut pas discuter parce qu'elle vient de la bouche du Maître, n'est-ce pas vrai? Ce sont donc comme des ordres, des exhortations précises pour que nous devenions de vrais disciples et que nous restions de vrais disciples, n'est-ce pas vrai? Car ce n'est pas le tout de bien commencer, il faut encore bien finir, bien achever la course. Beaucoup de chrétiens ont bien commencé, mais ils ont très mal fini. Et vous connaissez certainement des chrétiens qui un temps étaient bouillants, vivants, mais maintenant il n'y a plus rien du tout, n'est-ce pas vrai? Et ça, c'est une des plus grandes tragédies dans la vie d'un chrétien. Avoir commencé feu et flamme pour finir froid, loin du Seigneur, c'est une tragédie, n'est-ce pas vrai? Alors pour éviter cela dans nos vies, il nous faut prendre garde à des impératifs divins que Jésus a donnés pour tout disciple du Seigneur. Le premier impératif, nous le trouvons dans Jean chapitre 3, verset 7. Jean chapitre 3, verset 7, c'est Jésus qui parle à Nicodème, ce chef religieux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Vous allez remarquer, il lui dit des paroles très précises. Il lui dit, au verset 5 déjà, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Écoutez bien maintenant, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut, voilà l'impératif, il faut, c'est pas il faudrait, il faudrait peut-être que tu y penses, ce serait une bonne idée si tu y pensais. Ce n'est pas une option, c'est un ordre, et c'est le maître qui parle. Il faut quoi? Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors voilà le premier impératif divin pour tout disciple du Seigneur. Il faut, c'est la nécessité de la nouvelle naissance. C'est un impératif, l'impératif de la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume de Dieu. S'il fallait croire en Dieu, être tout simplement religieux pour aller au ciel, Nicodème était cet homme-là, vous êtes d'accord avec moi? Et il enseignait même les autres. Il avait une vie exemplaire. La première des choses que Jésus aurait dû lui dire, Nicodème, mais il n'y a pas un homme comme toi. Tu enseignes les autres. Tout ce que tu dis est bien. Alors, tout va très bien avec toi. Tu parles de Dieu, tu pries Dieu, tout va très bien. Mais est-ce que Jésus a dit cela? Voyez-vous ce qui est merveilleux avec le Seigneur? C'est qu'il dit toujours la vérité. Il n'est jamais impressionné par les titres, par les personnes, par leur réputation. Il n'est jamais impressionné. Il aime trop les gens pour les tromper. Il les aime trop pour cacher la vérité. Et quand Dieu nous dit des paroles apparemment sévères, laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas. C'est précisément parce qu'il vous aime. La chose la plus terrible, c'est de ne plus entendre les paroles de vérité. Quand Dieu se tait, c'est la chose la plus terrible. C'est la chose la plus terrible. Il faut encore remercier Dieu de ce qu'il nous dit la vérité dans son amour. Amen. C'est parce qu'il nous aime. Et là, c'est l'impératif de la nouvelle naissance. Voyez-vous, on peut être religieux, on peut aller à l'église, on peut être né toute sa vie dans l'église sans être né de nouveau, sans être converti, sans être régénéré. Simplement croire en Dieu ne suffit pas, même prier ne suffit pas. Il faut naître de nouveau, il faut être régénéré par le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il faut recevoir la nature divine en soi, pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique plutôt cette nature divine en nous pour nous permettre de communier avec Dieu qui est Esprit. Alors comment, nous qui n'avons pas cette nature divine en nous, il y en a qui veulent nous faire croire qu'il y a une étincelle divine en nous. Les religions orientales, l'hindouisme, a amené tout ça dans nos pays occidentaux, n'est-ce pas vrai? Et des multitudes de gens maintenant croient que dans le cœur de l'homme, il y a cette étincelle divine. C'est la plus grande ruse du diable. La Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés. Il n'y a aucune étincelle de vie divine en nous. Nous sommes morts. La vie de Dieu n'existe pas. Notre nature est une nature mauvaise. Et parce que nous sommes charnels et mauvais, nous ne pouvons pas avoir communion avec le Dieu trois fois saint. Pour pouvoir communier avec Dieu qui est saint et esprit, nous devons naître de l'esprit. Comment naître de l'esprit? Il faut reconnaître que nous sommes pécheurs, perdus. et que rien ne peut nous sauver, ni ma religion, ni mes prières. Nicodème, ta religion ne peut pas te sauver, ta sagesse ne peut pas te sauver, tes dons, tes bonnes œuvres ne peuvent pas te sauver. Tu es perdu. Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Nous sommes perdus parce que nous avons tous péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Cela veut dire que notre péché mérite la condamnation divine et nous sépare de Dieu. Même que je sois religieux, je peux être religieux et être perdu. Donc, c'est pas parce que je suis religieux que je suis quelqu'un de spécial. Aux yeux de Dieu, nous sommes perdus. Et nous méritons le jugement de Dieu. Vous allez dire, mais alors qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est une mauvaise parole que vous apportez. Alors qu'est-ce que je vais devenir? Donc je suis perdu. Donc je suis vraiment perdu. Tu es vraiment perdu. Tu mérites le jugement de Dieu. Mais ne me dites pas ça, je vais faire une dépression. Mais ce serait une bonne dépression, ça. Ça, c'est une bonne dépression. Parce que tant que l'homme, écoutez-moi bien, c'est là le point capital, ne reconnaît pas qu'il est perdu, il ne réalisera jamais ce besoin d'être sauvé. N'est-ce pas vrai? Jamais! Si tu dis que tout va très bien, oh mais moi je suis gentil quand même, je fais du bien. De temps en temps je fais bien quelques petites mauvaises choses, mais enfin, à côté de tout le bien que je fais, le mal est facilement contrebalancé. Le bien est plus fort que le mal. Alors ça va très bien. Non mes amis, la maladie est là, est grave. Nous sommes pécheurs. Et ce péché que nous avons commis mérite le jugement de Dieu. Parce qu'aucun péché n'entrera au ciel. C'est clair et net. Alors nous sommes perdus. Notre péché nous sépare de Dieu, parce que Dieu est saint et il ne peut pas accepter un être pécheur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut reconnaître premièrement que tu es perdu. Et deuxièmement, Dieu dans son amour ne veut pas que tu sois perdu. C'est cela. Et il ne veut pas que tu sois perdu. Dans sa justice, il est obligé de te condamner. Mais dans son amour, il est venu te sauver. Et comment il a fait? Eh bien, comme tu ne peux pas te sauver toi-même, par tes œuvres, par quoi que ce soit, tu ne peux pas te sauver de toi-même. Tu as une dette trop élevée. Tu ne pourras jamais payer ta dette aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu pour payer la dette que tu ne pouvais jamais payer toi-même. Amen. Alors la maladie est grave. Nous sommes pécheurs condamnés. Mais dans son amour, Dieu nous a envoyé son Fils. La condamnation qui était sur nous, Jésus l'a prise sur lui. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a été brisé pour nos péchés. Il a été humilié pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je méritais d'être jugé et condamné. Et Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils qui a été jugé et condamné à ma place. Ça, c'est l'amour de Dieu. Un juste devait mourir pour nous injustes. L'innocent devait mourir pour nous pécheurs, coupables. Et lorsque je regarde la croix, je pense à Jésus. C'est moi qui devais mourir là-bas. Mon péché méritait la mort et le châtiment. Mais quand je regarde la croix, je dis, mais Seigneur, c'est moi qui devais mourir là-bas. C'est moi, c'est ma place. C'est ma place parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ma place. Seigneur, c'est moi qui devais être séparé de Dieu et mourir éternellement loin de ta face. Mais quand je regarde la croix, je vois que Jésus est mort. Lui le juste pour moi injuste. Lui l'innocent pour moi coupable, lui le pur pour moi impur, lui le Fils de Dieu pour moi pécheur. Alors je vois, Seigneur, je devais mourir, mais tu es mort à ma place. La Bible dit, Christ est mort pour nos péchés. Quel amour! La dette que je ne pouvais jamais payer à Dieu, Jésus l'a payée à ma place. Amen! Et maintenant, il m'offre gratuitement le pardon. Pourquoi? Parce que je ne peux jamais payer ma dette. Pourquoi le salut est gratuit? Parce que Dieu ne peut jamais payer ta dette devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'offre gratuitement. Mais je vais essayer de payer un petit peu. Non, tu ne pourras jamais. Le salut coûte trop cher. Tu ne pourras jamais payer ta dette. Voilà pourquoi Dieu l'offre gratuitement à ceux qui se repentent de leurs péchés et qui acceptent, qui croient que le sacrifice sanglant de Jésus est suffisant pour le pardon de leurs péchés et pour recevoir la vie éternelle. Amen. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est une nécessité. Si tu n'es pas régénéré par le Saint-Esprit, si tu ne te repens pas de tes péchés et que tu ne mets pas ta confiance dans le seul sacrifice de Jésus pour être pardonné et purifié de tes péchés, tu n'entreras jamais dans le royaume de Dieu. C'est une nécessité. C'est un impératif. Puissions-nous tous obéir à cet impératif. Amen. Né de l'Esprit, régénéré. C'est ainsi que lorsque nous recevons Christ dans notre vie, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Nous recevons une nouvelle nature par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et désormais, le Saint-Esprit qui est en nous crie « Abba, Père ». Et à cause de l'Esprit Saint qui habite en nous, nous pouvons avoir communion avec Dieu qui est Esprit. Désormais, une vie nouvelle commence. C'est la nouvelle naissance, c'est la régénération dont la Bible parle et qui est indispensable. Jésus l'a dit, ne t'étonne pas, parce que tu es sûrement étonné de ce que je te dis. Tu es étonné. Vous êtes peut-être étonné de ces paroles. Ne vous étonnez pas, il faut, c'est un impératif. Puissions-nous tous obéir à ces injonctions divines pour le bien de nos âmes et pour notre bonheur éternel. Amen. Deuxième impératif, chapitre 3, toujours. Et verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Il faut. Encore un autre impératif. Il faut, pas il faudrait. Il faut. Voilà, l'impératif est là. Il faut quoi? De même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors ici, il y a un deuxième impératif. Il faut. Le deuxième impératif, c'est l'impératif de la croix. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est l'impératif de la croix. Car afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Deuxième impératif, l'impératif de la croix. Seule la croix de notre Seigneur Jésus nous permet d'avoir accès avec Dieu et de recevoir la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais écoutez bien, ici c'est l'impératif de la croix. Quelle est la pensée importante pour nous? Cela veut dire que nous ne pouvons rien ajouter, ni rien retrancher au sacrifice de Jésus-Christ. Si c'est l'impératif de la croix, ça veut dire que c'est seulement la croix qui nous sauvera. Aujourd'hui encore, nous entendons tant de gens dire « Oui, Jésus est mort pour mes péchés, mais je dois encore faire quelque chose pour être sauvé. » N'est-ce pas vrai? Voyez-vous, en ayant une telle conception, en disant « Je crois que Jésus est mort pour mes péchés, mais il faut quand même que je fasse encore des bonnes œuvres pour être sauvé. » Une telle conception détruit la croix de notre Seigneur Jésus. Cet impératif de la croix nous montre que nous ne pouvons rien ajouter ni rien retrancher à la croix. L'œuvre de la croix est parfaite. Désormais, Dieu accorde la vie éternelle comme un don gratuit. Amen. Que nous avons tout simplement à accepter. L'œuvre est parfaite. Vous le savez, quand Jésus est mort sur la croix, une de ses dernières paroles a été « Tout est accompli. Et on pourrait traduire cette expression « tout est accompli » par « c'est payé », mais aussi une autre expression, « c'est parfaitement parfait ». Donc il n'y a plus rien à ajouter. Tes petites larmes, tes prières, tes petites œuvres pour essayer de plaire à Dieu, de mériter ce pardon, sont inutiles et déshonorent même le sacrifice de Jésus. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à une dame avec laquelle je parlais hier, ici. J'ai dit, mais si vous pensez que vous êtes sauvés par vos œuvres, alors cela veut dire que le sacrifice de Jésus à la croix n'est pas suffisant. C'est comme si vous lui disiez, Seigneur, tu vois, tu as souffert sur la croix, c'est bien, pour me pardonner, mais ce n'est pas suffisant. Puisqu'il faut que j'ajoute encore un peu mes souffrances à moi, mes prières à moi, mes mérites à moi. Vous voyez que sans vous en rendre compte, vous détruisez l'œuvre de la croix. Et si vous détruisez de la croix, vous vous détruisez vous-même. Vous signez votre propre perte spirituelle. Car c'est par la croix et par la croix seule que nous sommes sauvés. Alléluia. Lisons l'Apocalypse et nous voyons que dans l'Apocalypse, il n'y a qu'une personne qui est adorée, exaltée, Dieu le Père et l'agneau de Dieu, son Fils. Ce sacrifice parfait est suffisant qui peut nous sauver. C'est l'impératif de la croix. Mes amis, si vous voulez ajouter quelque chose à la croix pour mériter le pardon de vos péchés, mériter le ciel, vous déshonorez ce sacrifice. Vous n'avez pas compris le sens de la croix. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il a été élevé, et de Golgotha, l'œuvre est parfaite. Amen. Tout est parfaitement parfait. Et le mot que Jésus a prononcé sur la croix, vous le connaissez, en grec, c'est tétélestai. Tétélestai, qui veut dire c'est payé. C'est payé. J'ai payé ta dette. Amen. Ce que tu ne pouvais pas payer, je l'ai payé. Ton immense dette à cause de ton péché, je l'ai payé par ma mort sanglante sur la croix. Je l'ai payé. Il n'y a plus rien à faire. Tu n'as plus qu'à recevoir les fruits de ma mort sur la croix pour toi, désormais, puisque tout est payé. Le salut est offert gratuitement parce que tu ne pourras jamais payer ta dette. Jamais le salut est gratuit parce que tu ne pourras jamais le payer. Parce que le prix est trop élevé. Amen. C'est l'impératif de la croix, mes amis. Je ne vous connais pas tous, mais c'est un impératif auquel il faut bien faire attention. Mais vous dites, mais moi, ma religion m'a dit ça, mais ce n'est pas ce que la religion dit qui compte. C'est ce que Jésus dit. Parce qu'un jour, vous ne serez pas jugés par les hommes de la religion. Devant le trône de Dieu, vous serez tout seul. Et ceux qui vous ont induit en erreur ne seront pas là pour vous sauver ou pour vous défendre. Parce qu'eux-mêmes seront condamnés et dans la honte ce jour-là. Alors, ne joue pas avec ton âme. Ne joue pas avec ton éternité. L'impératif de la croix. Le Seigneur a tout accompli. Désormais, le salut est un don gratuit. Il est gratuit pour nous, mais un salut gratuit ne veut pas dire qu'il est bon marché. Beaucoup de gens confondent cela. Gratuit ne veut pas dire bon marché. Il est gratuit pour moi parce que je ne pouvais pas payer ma dette, mais il n'a pas été bon marché, gratuit pour le Seigneur. Gratuit pour moi, mais il n'a pas été bon marché. Il a dû payer de sa vie pour me sauver. Amen. Gratuit pour moi, oui, mais pas bon marché. C'est au prix de ses grandes souffrances que nous sommes sauvés et réconciliés avec le Dieu trois fois saint. Voilà pourquoi Paul disait, je ne veux me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus. Et partout où il allait, il l'annonçait, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La croix de notre Amen. Seigneur. Voilà ce qui nous ouvrira le ciel. Rien d'autre ne t'ouvrira le ciel que le sacrifice sanglant de Jésus, où ton Sauveur est mort à ta place, jugé à ta place. Contemple un instant le Sauveur sur la croix. Ce n'est pas pour ses péchés qu'il est mort, c'est pour tes péchés. Ce sont tes péchés, tes souffrances, ta souillure, ta condamnation qu'il portait. C'est par amour pour toi qu'il est monté sur cette croix, afin que tu ne subisses pas la perdition éternelle, mais que tu sois sauvé et que tu puisses un jour, purifié par son sang, entrer dans ce ciel trois fois pur pour adorer le Dieu trois fois saint. Amen. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il n'y a pas d'autre moyen de salut que par la croix de notre Seigneur. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voyez-vous, le salut par les œuvres glorifie l'homme, n'est-ce pas vrai? Quand quelqu'un pense qu'il doit être sauvé par ses œuvres, il va en faire et il va se vanter. Il va penser qu'il est meilleur que quelqu'un d'autre, n'est-ce pas vrai? Et cela, Dieu ne le veut pas. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Que le nom du Seigneur soit béni. Et si on se glorifie, c'est uniquement dans le Seigneur, son amour. C'est pourquoi nous sommes ici, pour glorifier son amour, sa croix. Nous ne sommes pas là pour glorifier un homme ou une église particulière. Aucune église ne peut sauver. Aucun homme, aucune femme ne peut sauver. Aucune dénomination, quelle qu'elle soit, ne peut te sauver. Tu peux appartenir à une dénomination ou à une église, mais ce n'est pas cela qui te sauve. C'est ton appartenance à Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur personnel qui te sauve pour le temps et pour l'éternité.
Amen.
Après avoir passé au pied de la croix.
Amen.
L'impératif de la croix, mes amis. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il n'y a pas 50 chemins, il n'y a qu'un chemin. Troisième impératif, Jean chapitre 3 toujours. Jean 3, verset 30. Qu'est-ce que vous avez comme impératif là? C'est Jean-Baptiste qui parle. Jean 3, verset 30. Verset 29, celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut, ah voilà notre impératif, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors c'est quel impératif ici? Il faut qu'il croisse. C'est un impératif. Jean-Baptiste avait compris cela. C'est l'impératif de la seigneurie de Jésus dans nos vies. Un vrai disciple, c'est pas seulement qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, mais aussi comme son Seigneur. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Une fois que l'on devient chrétien, et le suivre tous les jours de sa vie, notre plus grand désir est que Jésus croisse dans notre vie et que nous puissions toujours diminuer, 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 diminuer. Il faut qu'il prenne toute la place dans notre vie. Amen.
Amen.
C'est là l'impératif de la Seigneurie. Combien de chrétiens se disent chrétiens, mais Jésus n'est pas le Seigneur. Ils l'ont accepté comme le Sauveur, mais ils l'ont renié comme le Seigneur de leur vie. Et ça, c'est une tragédie. Combien de chrétiens? Ils font encore ce qu'ils veulent, ils font comme ils veulent. Ils n'ont pas saisi cet impératif que Jean-Baptiste a donné. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il ait toute la place. La Bible dit qu'il faut qu'en toute chose, Christ ait la prééminence. Christ est ma vie, disait Paul, et la mort m'est un gain. Il avait compris quelque chose que nous devons tous saisir. L'impératif de la seigneurie. Mes amis, écoutez-moi bien. Si nous sommes malheureux, même parfois en tant que chrétiens, c'est parce que nous faisons ce que nous voulons, au lieu de faire ce que Dieu veut. Faire sa volonté personnelle, c'est du poison. Mais faire la volonté de Dieu, c'est un miel qui nous restaure. Car la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et lorsque nous voulons, jour après jour, entrer dans cette soumission à la Seigneurie de Jésus pour qu'il règne en tout, nous ne pouvons qu'expérimenter paix, bonheur, joie, assurance, Amen. Épanouissement Amen. Sous son règne, sous sa Seigneurie. Tout est tranquillité, tout est paix, Amen. Tout est bonheur, Amen. Sous la houlette du bon berger. Amen. Mais que la brebis s'éloigne, qu'est-ce qui se passe? Les loups sont là, les tourments sont là. Et voilà ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Oui, Jésus est mon sauveur, mais il n'est pas le Seigneur. Ils font encore ce qu'ils veulent. Ils vont encore là où ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent, ils entendent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Jésus n'est pas le Seigneur. Et voilà pourquoi leur vie est un échec. Leur vie spirituelle chrétienne est un échec. Si nous voulons que vraiment le Seigneur soit glorifié dans notre vie, nous devons prendre garde à cet impératif et le faire avec amour, parce que c'est par amour que nous le faisons, Seigneur. Ne sois pas seulement le sauveur de mon âme, mais aussi le Seigneur de ma vie.
Amen.
À partir de maintenant, je te remets les rênes de ma vie. C'est fini ce que tu veux et non ce que je veux. Seigneur, me voici. Esclave volontaire, je veux t'obéir Alléluia. Par amour et faire ta volonté.
Alléluia.
Sous sa Seigneurie, alors vous vivrez de victoire en victoire.
Amen.
Vous marcherez de foi en foi
Amen.
Et vous serez transformés de gloire en gloire. La Seigneurie de Christ, il faut qu'il soit élevé. Quatrième impératif, Jean 4, 24, un verset que nous connaissons tous bien, à partir du verset 23 déjà. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, c'est Jésus qui parle cette fois à la Samaritaine, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, les vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs aussi. Quand il parle de vrais adorateurs, c'est-à-dire qu'il y a des faux adorateurs. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, recherche. Dieu est esprit. Qu'est-ce que vous avez après dans vos Bibles? Et il? Ah, voilà un autre impératif. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quatrième impératif, l'impératif de la vraie adoration dans nos vies. De la vraie adoration. Dieu n'accepte pas n'importe quelle adoration, mes amis. En esprit et en vérité. En esprit, il faut d'abord être né de l'esprit pour pouvoir adorer Dieu qui est esprit, n'est-ce pas vrai? Mais en vérité, il faut que ce soit du plus profond de notre cœur, du plus profond de notre être.
Amen.
Il faut que ce soit sincère
Amen.
Et non du bout des lèvres.
Amen.
Jésus a dit en parlant des gens religieux de son temps, « Ce peuple m'honore, mais le verbe est, grec est, ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Voyez-vous qu'on peut adorer Dieu avec sa bouche, ses lèvres, mais avoir un cœur qui est loin de Dieu. Parce que c'était des hypocrites. Et le mot hypocrite veut dire comédien. Comédien. Double vie. On paraît bien devant les uns, mais par derrière, c'est tout à fait autre chose. Dans l'église, devant les hommes, on a l'impression d'être un apôtre. Mais en cachette, loin de tout. On vit comme un petit démon. Tout est différent. Et c'est ce que Jésus dit. Si vous voulez m'adorer, il faut que l'adoration soit authentique. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que ce soit plus que ça encore. En vérité. du plus profond de ton cœur, pas du bout des lèvres. C'est cette adoration-là que Dieu accepte comme un parfum de bonne odeur qui monte vers lui. Amen. C'est un impératif. C'est pourquoi chaque fois que nous adorons, vous adorez, il faut bien vous préparer. Il y a toujours une préparation dans l'adoration. Préparer son cœur de toute impureté, de toute rancune, de toute amertume. Et puis dire, Seigneur, c'est du fond de mon cœur que je veux t'adorer. Pas du bout des lèvres. Pas du bout des lèvres. Hein? Voilà, allez, 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 amen, amen, allez. C'est quoi ça? Le cœur, il est où? C'est tout fermé là? C'est quoi? Il n'y a rien qui... De l'abondance du cœur, la bouche parle. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Ça ne sort pas plus. C'est qu'il n'y a pas grand-chose dedans là. Allez. Il n'y a pas plus que ça. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et on le voit et on le sent quand ça vient du cœur. Amen.
Amen.
Moi, vous êtes comme moi. Vous savez très bien quand quelqu'un prie du fond du cœur ou du bout des lèvres. Mais c'est pas vrai? Vous n'êtes pas des prophètes, mais vous pouvez le sentir. Comme moi, je le sens aussi. Oui. Si on ne peut pas se tromper les uns les autres, à combien plus forte raison nous ne pouvons pas tromper Dieu? L'impératif d'une vraie adoration. Car c'est, Dieu n'adore pas, Dieu n'accepte pas n'importe quelle adoration, mes amis. Saint. Né de l'Esprit, c'est une adoration par l'Esprit Saint. Il faut être régénéré, converti. C'est pour ça que si on n'est pas converti, on peut aller à l'église, on peut même chanter les cantiques et tout, et être perdu, et ne pas être sauvé, et ne pas être en communion avec Dieu, vous savez. Ah oui, mais vous savez, moi je crois en Dieu et tout. Mais ça, c'est pas ça qui te sauve. C'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Mais vous savez, je fais du bien, je crois, je respecte tout ce que vous dites, mais monsieur, c'est très bien tout ce que vous dites, mais ça, tout ça, ça sert à rien. C'est pas ça. Es-tu né de nouveau? Es-tu né du Saint-Esprit? Est-ce que la nature divine est en toi? L'Esprit de Dieu crie en toi, ma Père. Et ensuite, maintenant, Seigneur, c'est du fond de mon cœur que je veux t'adorer. Mes amis, là, il faut bien faire attention. Que de fois, même dans nos milieux à nous, on adore Dieu par habitude, n'est-ce pas vrai? Ah, encore un cantique. Encore un. Oh, c'est toujours le même, je pense. Celui-là. Celui-là. Ouais. Alléluia, alléluia. Et on sent qu'il n'y a pas cette chaleur, cette fraîcheur, cette spontanéité, que c'est grave, n'est-ce pas vrai? Combien le cœur du Père peut être attristé, c'est quand il nous voit adorer. Je vous avais raconté déjà cette histoire, j'avais lu ça, c'est un songe qu'un pasteur avait eu. Il avait eu un songe, je ne sais pas si c'était son église ou une autre église, mais je pense bien que c'était son église. Il a vu qu'en songe, son église, la chorale de son église en train de louer le Seigneur, la chorale. Mais dans cette chorale, il y avait aussi un enfant, quelques jeunes aussi. Mais surtout un jeune particulièrement. Et quand dans le songe, il voyait la chorale chanter, c'était bizarre. La chorale faisait tous les gestes, mais on n'entendait rien du tout. C'est très bizarre comme dans le choral. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans le choral, ils chantent tous, mais on ne les entend pas. Alors ouais, ça fait vraiment drôle, hein? C'est vraiment c'est de la comédie, quoi, ça fait quand il n'y a pas de parole. Mais il a remarqué autre chose. L'enfant qu'il y avait là, qui faisait partie de la chorale, chantait aussi. Et la seule voix qu'on entendait, qu'il a entendue, c'était la voix de l'enfant. Et il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'entend que cet enfant? Et le Seigneur a dit, il n'y a que cet enfant-là qui chante du fond de son cœur. Les autres, c'est du bout des lèvres. Et ça ne va pas au ciel, ça reste au plafond. C'est ce qui vient du fond du cœur qui touche le cœur du Seigneur.
Amen.
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 Ce ne sont pas ni nos cris, ni nos larmes, ni nos gesticulations. C'est la sincérité profonde. Amen. C'est pas parce qu'on crie fort que le Seigneur nous entend plus. Quelle illusion. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas élever la voix, mais il faut que ça vienne du fond du cœur. L'adoration, l'impératif d'une vraie adoration, c'est celle-là que Dieu agrée. Dieu est satisfait. Et quand il est satisfait, laissez-moi dire une chose, le Saint-Esprit en vous est satisfait. Amen. Et il y a une plénitude extraordinaire. Amen.
Amen.
On est comme rempli, débordant, n'est-ce
Amen,
pas vrai?
Amen.
Alléluia.
Amen.
Allons un peu plus loin. On en est où? Combien?
Cinquième.
Septième ou bien?
Cinquième.
J'essaye de voir si vous ne dormez pas. Hein. C'est cinq, alors vous en êtes sûr? C'est pas le deuxième?
Non,
c'est bien. Je vous ai bien réveillé comme ça un petit peu. Cinquièmement, un autre impératif. Jean 9, verset 4. Un autre impératif. Jean 9, verset 4. Verset 3 déjà. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc il est question d'un aveugle né ici, de naissance. D'un aveugle, oui, né aveugle, de naissance. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut, un autre impératif, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Un autre impératif. Et quel est l'impératif ici? C'est l'impératif de réaliser l'urgence des temps difficiles qui viennent. Car la nuit vient où personne ne pourra travailler. La nuit vient, mes amis, c'est l'impératif d'une urgence à cause des temps difficiles qui viennent. La nuit vient, elle est déjà bien présente, n'est-ce pas vrai? Mais elle va aller en augmentant, en se noircissant davantage. L'urgence des temps difficiles qui viennent. Nous devons donc réaliser ces temps-là et agir en conséquence et purifier notre robe dans le sang de Jésus, remplir nos coupes jusqu'à déborder, être remplis de l'Esprit. Amen. Car ce n'est que remplis de l'Esprit que nous pourrons tenir debout. Ce n'est pas un luxe. Et le moyen de rester rempli, Amen. L'adoration est le moyen merveilleux, idéal, pour rester continuellement rempli de l'Esprit. Amen. Vous le remarquez vous-même, quand nous adorons vraiment, sincèrement, de tout son cœur, par le Saint-Esprit, quel renouvellement intérieur.
Amen.
On se sent porté, on se sent rempli, n'est-ce pas vrai? C'est une réalité. Cinquième impératif, la nuit vient. Il faut que je fasse pendant qu'il fait jour les œuvres que le Père me demande. Car la nuit vient où personne ne pourra travailler. À un moment donné, ce sera difficile. Vous savez, il y en a qui prétendent, soi-disant, qu'il va y avoir un grand réveil extraordinaire à la fin des temps. Je crois que c'est la plus grande ruse du diable. À aucun moment, il nous est dit qu'il va y avoir un réveil extraordinaire avant le retour du Seigneur. Les prophéties, la parole de Dieu dit tout le contraire. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et il y aura plutôt l'apostasie que le réveil. Cela ne veut pas dire que l'évangile ne sera pas prêché, des âmes seront sauvées, des corps guéris. Ça, c'est la vie normale de l'Église. Mais prétendre à un grand réveil extraordinaire, c'est un mensonge. La lumière ne va pas aller en grandissant, mes amis. Ce sont les ténèbres qui vont aller en grandissant. C'est pourquoi nous devons, justement, prêcher cette bonne nouvelle et être remplis dans ces temps de la fin.
Amen.
Car il y aura des temps difficiles. Certains abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Et le mot abandon ici veut dire apostasie. C'est l'apostasie. Alors nous devons bien faire attention et réaliser cette urgence pour rester remplis du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas un luxe. Si nous sommes ici, c'est un peu pour ça. C'est pour nous préparer toujours mieux, pour aller à la rencontre du Seigneur, n'est-ce pas vrai? Et combien on en a besoin? Chacun d'entre vous, d'entre nous. Vous savez, on combat tous d'une manière ou d'une autre. Il y a tant de difficultés. Et je crois que c'est vraiment dans la pensée du Seigneur qu'on se rassemble pour être renouvelés, pour purifier nos couples et pour remplir nos couples. Nous en avons besoin. C'est un impératif, c'est urgent. C'est urgent. Ce n'est pas un luxe. Vous êtes d'accord avec moi? C'est si urgent. C'est notre vie. C'est notre survie.
Amen.
Et je t'ai encore... Encore six. Sixièmement, Jean 10, 16, cette fois. Un autre impératif. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans, de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il faut un autre impératif. C'est l'impératif ici de l'évangélisation. Donc, si nous réalisons que les temps sont urgents, nous devons faire tout ce qu'il faut pour en sauver encore. Amen. Et non pas dire, oh là là, maintenant les temps sont difficiles, on ne fait plus rien, on se recroqueville sur soi-même. Non, 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 non. Ça, c'est notre attitude extrême, ça. Les uns pensent que tout le monde presque sera sauvé, enfin des grandes masses, et dans l'autre extrême, les autres, non, il n'y a plus personne. Ça, c'est l'autre extrémité. Il y a une urgence, la nuit vient, il faut que les autres viennent encore, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Alors, chacun à notre place. Faisons notre part. Amenons des âmes au Seigneur. Ou semons, s'il faut semer, parce que peut-être vous vous semez, un autre récoltera. Ça, c'est l'affaire du Seigneur. Mais semons, 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 pendant qu'il fait encore jour. Faisons quelque chose pour le Seigneur. Amen. Nous pouvons distribuer des traités, nous pouvons faire quelque chose. Même si on ne sait pas parler, nous avons tous l'occasion de faire quelque chose. C'est un impératif, il faut que les d'autres brebis rentrent. Faisons notre part. Et pour terminer, Jean 20, verset 9. Jean 20, verset 9. Un autre impératif. Au verset 8 déjà. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, il vit et il crut, car il ne comprenait pas, donc les disciples ne comprenaient pas encore que, selon les Écritures, Jésus, qu'est-ce que vous avez ? Devait, vous voyez l'autre impératif, c'est comme si on disait il faut, devait quoi ? Ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez lui. Quel est l'impératif ici? Il y a un point très important que les disciples n'avaient pas bien saisi. Voilà pourquoi ils étaient dans des difficultés. Car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Selon l'Écriture. Alors l'impératif est celui-ci. L'impératif de la rester fidèle à la parole de Dieu. Selon les Écritures, il devait ressusciter. Voyez-vous comme la parole met l'accent sur l'Écriture. Mais l'Écriture l'a dit. Si vous aviez tout simplement cru, c'est comme s'il disait ça aux disciples, si vous aviez cru, eh bien vous, si vous aviez cru à la parole, vous croiriez à la résurrection. Vous ne croyez pas à la résurrection parce que vous n'avez pas cru aux Écritures qui annoncent la résurrection. Amen. Alors l'impératif ici, et je termine mes amis, restons dans le recueillement encore, l'impératif de rester fidèle à la parole de Dieu. Car dans les derniers temps, je termine par cette pensée, et vous êtes déjà vous-même conscients de cela, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils ne supporteront pas la saine doctrine. Et nous sommes dans ces temps-là, mes amis. Vous parlez d'amour, tout le monde vous applaudit. Vous parlez d'unité, tout le monde vous applaudit. Parlez de saine doctrine, on vous persécute. Et on vous dit, vous jugez les gens. Vous commencez à les juger, vous les accusez, vous les condamnez. On ne supporte plus, on est dans ce temps-là, mes amis. On a assez bien placé, nous, pour le voir. Quand on a la tête, on sait très bien. On sait très bien. Et on est dans ces temps-là. On ne supporte plus la saine doctrine. C'est un très mauvais signe dans notre vie spirituelle. Quand nous n'avons plus l'amour de la vérité. Paul dit aux Thessaloniciens qu'il faut avoir l'amour de la vérité. Et ne pas accepter n'importe quoi. Tout contrôler comme les chrétiens de Bérée. Ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce que Paul disait était conforme aux Écritures. Ils examinaient. J'ai regardé une fois dans un commentaire biblique pour voir ce que le mot examiner veut dire dans le texte grec. Le mot examiner veut dire passer au crible, au tamis, de telle sorte qu'il faut faire des recherches sérieuses, exactes, jusqu'à l'origine des choses, pour voir d'où ça vient. Tout enseignement que nous entendons, toute pratique ou autre, il faut en connaître l'origine. Et non pas dire, ah mais ça fait du bien, mais j'étais béni, mais je suis guéri. Cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Dans toutes les religions, il y a des gens qui sont guéris, il y a des gens qui sont bénis. Une fois j'ai vu le témoignage d'un jeune homme qui suivait un gourou sur une cassette vidéo. On lui a posé la question, qu'est-ce qui t'a apporté ce gourou? Un jeune homme, qu'est-ce qui t'a apporté ce gourou? Et vous savez ce qu'il a dit? Ça m'a frappé. Ah, il m'a apporté l'amour. L'amour. Incroyable! Il expérimentait quelque chose. Vous savez, le diable peut vous donner des bons sentiments. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il est trompeur. C'est un ange, il se déguise en ange de lumière. Et il peut vous donner des bons sentiments. Donc l'expérience, me sentir bien, être guéri, et ça, tout ça n'a aucune valeur définitive devant Dieu. Ils examinaient dans les Écritures, il faut aller à l'origine, ils examinaient même ce que Paul disait. Quand quelqu'un refuse d'être examiné dans son enseignement, c'est déjà très dangereux. Quand quelqu'un prêche la parole, il n'a pas peur d'être examiné, vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai pas peur du tout d'être examiné par vous. Même je suis content si vous dites, mais là frère, l'autre, j'ai pas bien compris ça, où est-ce que c'est ça? Où est-ce que c'est... Mais je suis le premier à vous dire, oui, c'est ça, oui. Et je suis le premier à vous dire, bon, ben oui, ça c'est dans la parole et tout. Ah, mais si c'est pas dans la parole, je dirais, ah ben là, excuse-moi, là j'ai dit un mot de trop, ça c'était pas dans la parole. Alors il faut mettre ça de côté. Mais quelqu'un qui aime la vérité, il n'est pas offensé. Au contraire, on est content de voir quelqu'un qui vient et dit, mais attention, ça c'est pas dans la Bible. Mais j'ai dit, au moins c'est un chrétien solide celui-là, au moins il est attaché à la parole. Ça me réjouit le cœur. Loin d'être offensé, je suis réjoui par une telle personne. Et ça, c'est très important. L'impératif de rester fidèle à la parole, selon les Écritures, il devait ressusciter. Mes amis, nous devons tout contrôler au tamis.
Au peigne fin.
Au peigne fin, au tamis, au... Dans les détails, c'est refaire des recherches sérieuses. Exact. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire ça. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On est toujours trop pressé. On est toujours trop pressé. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va jamais au fond des choses. On en reste à la surface. Alléluia, ça m'a fait du bien. Nous vivons un christianisme superficiel et sensuel. C'est l'essence. C'est tout dans l'essence. Et dans la en surface, mais il n'y a pas de profondeur. On ne va pas au fond des choses pour voir si c'est dans la Bible, si notre foi est enracinée dans la parole. Combien de chrétiens écoutent certains prédicateurs et ne vérifient jamais leur enseignement, pensant que forcément ils prêchent la parole de Dieu. Si on a contrôlé, les chrétiens de Béret ont contrôlé Paul, vous avez le droit de contrôler n'importe quel prédicateur. Et même celui qui se dit apôtre, vous avez le droit de contrôler. Vous avez l'autorité de la parole pour cela, les chrétiens de Béret. Et un vrai apôtre ne sera jamais offusqué de ce que vous contrôlez, son message. C'est le faux apôtre qui est offusqué. Mais le vrai, au contraire, il s'en réjouira. Amen. Il s'en réjouira parce qu'il voit que celui-là, il est attaché à la parole. Et ça, c'est la plus grande bénédiction. Je termine. L'impératif de rester fidèle. Mes amis, voilà donc les sept impératifs divins pour que nous puissions partir maintenant, là où Dieu nous envoie, avec ces impératifs divins pour être de vrais disciples de Jésus-Christ et d'aller porter du fruit, et un fruit qui demeure, et que nous soyons debout lorsqu'il reviendra. Debout, loin de toute erreur, mais fidèles au Seigneur et à sa parole jusqu'à son prochain retour.